Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté.
Auditrice, auditeur, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 7 avril 2025 et cette chronique du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord sera rediffusée jeudi à 16h et samedi à 17h30. Pour ce lundi, c'est en direct intégral que se tient cette chronique dans laquelle je vais aborder plusieurs sujets. Les prochaines chroniques seront très largement occupées par la question de la course à la guerre qui est maintenant lancée par tous les gouvernements et contre laquelle la libre pensée a émis déjà sa position. Nous sommes inconditionnellement pour la paix, contre la marche à la guerre, et cela va nous amener à intervenir très fréquemment sur ce sujet. Aujourd'hui, j'aborderai dans une deuxième partie de l'émission cette question de la guerre à partir du numéro de l'Idée libre qui est sorti récemment, j'y reviens tout à l'heure, mais je vais commencer par deux textes que je vais vous lire. Le premier texte, c'est une lettre à Boualem Sansal, écrite par Ali Farid Belkadi. Les actualités ont fait une large place à Boualem Sansal et à faire connaître toutes les protestations qui ont été émises et exigeant sa libération, etc., etc., avec une précipitation, une intensité dans ses démarches assez inhabituelle de la part de ces médias. Par rapport à toute une autre série de personnes qui ont subi la répression. Donc, comme contribution à la réflexion sur cette question de Boualem Sansal, c'est intéressant d'avoir cette lettre de Ali Farid Belkadi qui a donné son autorisation à la Libre Pensée pour que nous puissions communiquer largement cette lettre. Donc, c'est ce que je fais. Voilà donc ce que dit Ali Farid Belkadi. Il est des silences qui protègent et des paroles qui blessent. Il est des critiques qui éclairent et d'autres qui humilient. Et puis, il y a les mots de vos livres. Il s'adresse donc à Boualem Sansal, puisque c'est une lettre à Boualem Sansal. Et puis, il y a les mots de vos livres, jetés sans égard, sans tendresse, sans fidélité, comme s'ils ne venaient plus du pays, mais d'un balcon haut perché d'où l'on toise la foule algérienne depuis Saint-Germain-des-Prés. Monsieur Sansal, vous qui n'avez pas le talent du grand Kateb Yassine, il ne s'agit pas ici de vous interdire de critiquer. L'Algérie, comme toute nation vivante, doit être interrogée, secouée et, pourquoi pas, parfois même dénoncée. Mais toute critique n'est pas justice, toute colère n'est pas courage et toute franchise n'est pas loyauté. Lorsque vous parlez de votre pays, l'Algérie, qui vous a tout donné comme d'un navire échoué, irrécupérable, irrémédiablement corrompu ou fanatisé, vous ne décrivez pas l'Algérie, vous renforcez l'image que ses adversaires rêvent d'elle. Vous prêtez votre voix à ceux qui, depuis des décennies, veulent nous convaincre que le peuple algérien ne mérite ni son sol, ni son drapeau, ni sa liberté. Que l'Algérie était presque un désert sans nom, qu'elle n'est qu'une simple création française. Ce qui blesse dans vos propos, ce n'est pas la sévérité. C'est l'absence d'estime, l'absence d'espoir, l'absence de pudeur et l'absence de nuances, de teintes et de coloris. On peut dénoncer sans mépriser ni honnir. On peut accuser sans abandonner. On peut désespérer sans mépriser le peuple dont vous êtes. Vous parlez d'Algérie depuis l'extérieur, mais vos mots entrent chez nous comme des coups de vent glacés. Et pendant ce temps, ici, des femmes enseignent dans des écoles de montagne, des médecins soignent dans des dispensaires reculés, des jeunes codent, innovent, s'organisent, écrivent. Ici, des hommes et des femmes, anonymes et dignes, tiennent debout contre vents et marées. L'Algérie est loin d'être parfaite, qui le nie. Elle est encore blessée de ses contradictions, des influences d'un cruel passé colonial, entravée par ses héritages, cisaillée par les forces contraires de l'espoir et du repli. Mais elle est vivante, elle n'est pas finie, elle est toujours là, et elle ne mérite pas d'être enterrée par ceux-là même qui se disent ses enfants. La parole qui guérit est une parole juste, mais aussi enracinée. Elle connaît la terre, les douleurs, les luttes, les mains calleuses, les prières à voix basse. Votre parole, bien souvent, semble ne plus parler de nous, mais seulement de l'idée que vous vous faites de nous. Vous parlez à « eux », entre guillemets, de « nous », entre guillemets. Vous dites du mal à « eux », de « nous ». Eux, dont vous êtes approximativement, par décret, opportuniste, habile et malin, depuis quelques mois. Français de la dernière averse. Nous ne voulons pas d'une Algérie muselée, mais nous ne voulons pas non plus d'une Algérie méprisée, réduite à ses pires travers comme s'ils étaient sa seule vérité. Ce pays a ses ténèbres, mais il a aussi ses belles clartés. Il a ses ombres, il a aussi des veilleurs, des bâtisseurs, des techniciens prestigieux, des myriades d'ingénieurs, des médecins, en veux-tu, en voilà, et des poètes silencieux. Alors, à ceux qui ne croient plus, à ceux qui ont quitté la barque en jurant qu'elle coulerait, nous disons ceci. Tant qu'il y aura ne serait-ce qu'un seul homme avec une, ou une seule femme pour croire, construire, transmettre, alors l'Algérie ne sera jamais vaincue. Elle sera encore et toujours là. À bas l'impérialisme et à bas les prédateurs. Que vivent nos rêves de libération de tous les peuples opprimés. Voilà. Donc c'était ce texte de Ali Farid Belkadi, « Lettre à Boualem Sansal » que j'ai porté à votre connaissance parce que ça me semble être important d'avoir ce genre de propos par rapport à l'intensité de la campagne médiatique que l'on entend tous les jours, donc à propos de Boualem Sansal. Le deuxième texte que je souhaite porter à votre connaissance, c'est ce qui est en train de se passer avec, bon, on a eu connaissance d'une initiative regroupant toute une série de personnalités, réclamant une loi pour que l'antisionisme soit condamné au même titre que l'antisémitisme, en assimilant les deux. Et ce texte, cet appel, était paru dans le journal Le Monde. Et un certain nombre de personnes ont écrit un texte, bien sûr, s'opposant à cette tribune qui a été publiée dans Le Monde et demandant un droit de réponse. Et c'est ce texte que je vais vous lire. Je précise auparavant que localement, ici à Périgueux, est organisé le mercredi soir à 18h devant le palais de justice de Périgueux un rassemblement, donc mercredi 9 avril, 18h devant le palais de justice de Périgueux, à l'initiative de Dordogne-Palestine pour protester contre les expulsions des Palestiniens et donc toute la politique, j'irais, que mène aujourd'hui le gouvernement Netanyahou, ce gouvernement qui mène une politique qui commet des crimes de guerre et qui commet un génocide. Il faut vraiment appeler les choses par leur nom. Et les derniers éléments dont nous avons eu connaissance, avec notamment l'assassinat pur et simple de médecins, de soignants, démontrent, s'il en était encore besoin, ce que fait ce gouvernement de Netanyahou. Donc le texte, le droit de réponse qui a été demandé au journal Le Monde, je vais vous lire donc ce texte. « Pour que la lutte contre l'antisémitisme ne serve plus de prétexte à la répression de ceux qui dénoncent le génocide palestinien. Nous, militants de la cause palestinienne, avons été choqués par la tribune publiée par Le Monde, d'un collectif regroupant essentiellement des responsables politiques qui cherchent depuis le début à invisibiliser le génocide palestinien. Cette tribune demande la pénalisation de l'antisionisme par l'inscription de celui-ci comme délit pénal par voie législative. Ce texte est une nouvelle falsification grossière de la vérité historique que nous entendons démontrer. De quoi le sionisme est-il le nom ? On lit dans la tribune, publié par Le Monde, donc c'était dans l'édition du Monde du 25, daté du 21 mars, 2025. Le sionisme, c'est un idéal d'émancipation, un ancrage durable, un barrage à la haine, un rempart à l'extermination. Fin de citation. Après un an et demi de bombardement, 50 000 morts, dont plus de 15 600 enfants, des milliers de blessés, d'amputés, de torturés, d'orphelins et 70% du territoire dévasté, nous estimons qu'il est logique d'en douter. Le sionisme, c'est à la fois la division territoriale de la Palestine sur des bases ethniques et l'extension sans fin de frontières jamais définies. L'entité qui porte ce projet n'est en rien représentative d'un peuple, mais au contraire reflète les intérêts économiques et militaires de pays étrangers à la région, à commencer par les États-Unis. je fais une parenthèse à ce moment-là, je rappelle la déclaration de Biden expliquant que si Israël n'existait pas, il faudrait l'inventer, que c'était la meilleure initiative qui avait été prise dans cette région du monde pour les intérêts américains. Je reprends le texte donc de cette contre-tribune. Ce droit de réponse. Nous assistons actuellement à l'aboutissement d'un projet d'expansion militaire et coloniale fondé sur la destruction de tout un peuple. Cette tragédie n'a pas commencé le 7 octobre, mais il y a un siècle, avec le nettoyage ethnique méthodique de la Palestine, combinant des phases d'agression militaire de haute intensité et des phases d'oppression impitoyable, basées sur un régime d'apartheid et d'enfermement généralisé des Palestiniens, d'assassinats, d'expulsions massives et de refus du retour des réfugiés. Le droit international bafoué de façon continuelle par Israël. La première résolution bafouée par Israël est celle dont elle tire son existence même, la résolution 181, qui proposait un plan de partage avec un État israélien pour les Juifs et un État arabe pour les Palestiniens. Ce plan de partage n'a jamais été respecté. Selon le journal israélien Haaretz, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté depuis 1947 près de 1500 résolutions. Entre 1968 et 2002, Israël a violé 32 résolutions qui comportaient la condamnation ou les critiques à l'égard des politiques et des actions des gouvernements, se plaçant ainsi au premier rang des pays enfreignant les résolutions de l'ONU. Pour la seule année 2022, Israël a battu tous les records en faisant l'objet de 15 résolutions de l'ONU pendant que la Russie faisait l'objet de 6 résolutions. 2022, c'est bien avant le 7 octobre 2023 et l'oppression, l'occupation, l'apartheid et le blocus de Gaza apparaissaient à la communauté internationale suffisamment insupportables pour interpeller 15 fois le gouvernement d'extrême droite israélien, mais sans jamais le mettre au banc des nations. Certains d'entre nous pensent que la solution réside dans l'ONU. D'autres pensent le contraire, car ces positions sont à géométrie variable. Pourquoi l'ONU n'envoie-t-elle pas des casques bleus en Palestine comme force d'interposition ? Quels que soient les moyens, le massacre doit cesser tout de suite et définitivement, car le sionisme dévaste la terre de Palestine et bafoue le droit international. En finir avec l'instrumentalisation de l'antisionisme. Tous les sionistes ne sont pas juifs et tous les juifs ne sont pas sionistes. Une des ambitions de cette sombre tribune est d'essentialiser les juifs comme le cible de l'antisionisme. C'est un procédé malhonnête, dangereux et antisémite. Car que cherchent les auteurs de cette tribune en assimilant les juifs du monde entier aux atrocités israéliennes, tout en indiquant qu'elles procèdent, citation de la tribune, d'un idéal d'émancipation ? Quelle stratégie et quel cynisme animent les signataires n'ayant pour la plupart rien à voir avec le judaïsme et étant largement inspirés dans les institutions? De quel droit stigmatisent-ils les juifs français avec de tels propos? Ces sionistes, quel que soit leur parti, sont des racistes prêts à mettre une cible dans le dos de tous ceux qui s'opposent à leur projet colonial. Rien ne peut justifier l'actuel nettoyage ethnique. Les Palestiniens ne sont pour rien dans l'antisémitisme des années 30 en Allemagne, en France, en Italie. Un passage du texte pousse même le raisonnement à son absurdité totale. Citation donc de la tribune publiée dans Le Monde le 21 mars dernier. On ne reproche plus aux Juifs de vouloir contrôler le monde, mais aux sionistes de vouloir contrôler les terres. Fin de citation. Il ne faudrait donc pas critiquer le vol de terre et les dévastations des colons, car cela pourrait être comparé aux arguments ayant cours dans l'entre-deux-guerres. Mais en quoi le Palestinien d'aujourd'hui est-il responsable des élucubrations de l'extrême droite européenne des années 1930 ? En grand nombre, des Juifs du monde entier disent « pas en mon nom ». Ils rappellent qu'on avait proclamé « plus jamais ça » après le génocide perpétré par les nazis. Des millions de citoyens sont saisis d'horreur en voyant hommes, femmes et enfants massacrés par milliers en direct et sans que les dirigeants des pays européens en perdent le sourire ni l'opportunité de vendre les armes. Expliquer que l'émancipation d'un groupe ne peut passer que par un État religieux signifie donc qu'il serait impossible de combattre un État pour un État laïque traitant les citoyens de la même manière, quelle que soit la religion. Drôle de conception. Pour nous, tous les citoyens doivent jouir des mêmes droits indépendamment de la religion. Répéter en mensonge n'en fait pas une vérité. L'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme, et ils le savent. Notre empathie n'est pas dictée par les considérations des marchands d'armes américains. Nous sommes solidaires des juifs antiracistes, y compris israéliens, et clamons que le droit international doit être le cadre du règlement pacifique des conflits. Nous admirons tout autant une Rima Hassan qu'un Pierre Stamboul ou un Ronnie Broman. Nous nous intéressons trop à la justesse de l'émancipation pour prendre en compte les convictions religieuses ou philosophiques. Nous en appelons à toutes celles et ceux, militants, démocrates, défenseurs des droits de l'homme, descendants de la résistance, syndicalistes, journalistes honnêtes, politiques, auxquels il reste une conscience, et à tous ceux qui refusent le chantage et regardent avec lucidité l'étendue des injustices faites aux Palestiniens depuis un siècle. La critique du sionisme est une liberté qui nuit à l'extrême droite et à ses marchepieds. On ne règle pas un problème politique en interdisant la liberté d'expression, liberté qui est toujours celle de celui qui pense autrement. En aucun cas, la moindre loi ne peut venir interdire à celles et ceux qui dénoncent le génocide de donner leurs arguments, y compris dans leur combat contre le sionisme. Et donc, il y a des milliers de signatures et des associations, organisations qui ont également signé cet appel. Et le droit de réponse demandé au Monde, eh bien, devinez ce qui est arrivé, le Monde a refusé de publier ce droit de réponse au motif qu'il n'avait pas la place pour le faire. Donc, les auteurs de ce demande de droit de réponse ont répondu au Monde en fournissant un texte qui, de par sa longueur, etc., avait été recalculé pour reprendre exactement la même place que que l'appel initial. Et le Monde a dû faire un forward du premier mail envoyé, puisque c'est exactement les mêmes propos qui ont été tenus avec l'argument du manque de place. Donc ça ne manquait pas de place pour l'appel de ceux qui en appellent à la répression contre ceux qui luttent contre le sionisme. Et là, par contre, pour dénoncer l'amalgame qui est fait, il n'y a plus la place dans le Monde. Les origines du Monde remontent à la surface, c'est très très clair. Donc voilà pour cette première partie de l'émission. Et puis je vous propose d'écouter dès maintenant le choix musical que j'ai fait pour cette chronique. C'est pas un choix musical en fait. J'indiquais tout à l'heure que la question de la course à la guerre allait revenir très fréquemment dans nos propos, donc j'y reviendrai après ce choix musical. Et ce choix musical introduit cette question de la guerre. C'est dans le dernier numéro de l'Idée libre, donc, dont je parlais tout à l'heure, qu'il y a toute une série d'articles sur cette question de la guerre, et notre ami Alain Vauchel a commis un article « Cinéma et pacifisme » en reprenant dans les différents films toute une série de commentaires, donc montrant la place qu'ont pu jouer différents films. Et il dit à un moment donné dans son article « Reste le film le plus tranchant à mon sens dans la dénonciation « Les hommes contre » de Francesco Rosi, 1970, à sa sortie en Italie, objet d'un procès pour dénigrement de l'armée. 1916 en Vénétie, dans la guerre contre l'Autriche-Hongrie, alliée de l'Allemagne, le général Léon décide qu'il faut reprendre coûte que coûte un sommet stratégique. Des milliers de morts supplémentaires vont venir, joncher les pentes de cette éminence dans ce qui aura été une boucherie inutile et un désastre militaire, scandé par des épisodes qui vont du grotesque au monstrueux, comme au final le pilonnage des troupes italiennes par leur propre artillerie mal réglée. Des bataillons se soulèvent, brûlent leurs armes, envois punitifs en première ligne, exécution sommaire, fusillade pour l'exemple. L'Italie en détient le sordide record. Se succèdent pour réprimer mutinerie, désertion ou blessures volontaires. Voilà une œuvre qui, comme chez Brecht, utilise l'émotion et le spectaculaire pour ouvrir à la réflexion et l'engagement. Un film à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas et à le regarder une nouvelle fois pour ceux qui l'avaient vu à l'époque. Et donc c'est la scène finale ou la bande-son de la scène finale que je vous propose d'écouter et qui nous ramène à ce combat que mène la libre pensée, à savoir la réhabilitation des fusillés pour l'exemple.
Aimez-vous la guerre ? Je trouvais juste de la faire quand j'étais à l'université. Je faisais partie du groupe d'étudiants interventionnistes.
Cela concerne le passé. Je vous parle d'aujourd'hui.
Je fais mon devoir avec conscience.
Je ne vous ai pas demandé si vous faisiez ou ne faisiez pas votre devoir. À la guerre, tout le monde fait son devoir, sinon on risque d'être fusillé. Je vous ai demandé si vous aimiez ou n'aimiez pas la guerre.
Lorsqu'on a vu la guerre en face, on n'a aucune envie d'en parler.
Dites la vérité. Vous êtes pour la paix.
En général, je crois que...
Rectifiez la position. Et quelle sorte de paix souhaitez-vous ?
Je veux une paix juste.
Malheureusement, lieutenant, tout ceci ne fait que confirmer l'opinion que j'avais de vous. On ne peut aimer la paix et bien faire la guerre. Par votre comportement, vous avez causé la mort du commandant Malchiodi. C'est à vous que ces hommes ont refusé d'obéir.
Je le reconnais.
Et savez-vous pourquoi ? Parce que les soldats connaissant vos idées subversives ont eu une conduite subversive. Un cas pareil ne saurait rester impuni.
Ils ont été décimés au cours de la dernière attaque. J'en réponds au nom de ces hommes.
Vous savez ce qui vous attend ?
Oui, mon général.
Voilà, donc j'espère que cet extrait donnera envie de revoir ce film et également pas mal d'autres, puisque cet article là, dont je parlais, donc de Alain Vauchel, paru dans le dernier numéro de L'Idée Libre, On cite un certain nombre. Alors, bien évidemment, il y a des films que nous connaissons largement. Hein, pour l'exemple, Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, etc. etc. Mais d'autres films qu'on a peut-être parfois complètement oubliés, il y a l'extraordinaire film d'Abel Gance, J'accuse, avec une scène là, où on voit les morts qui se lèvent pour exiger la paix universelle. Donc, de très, très nombreux films sont consacrés à cette question de la guerre et prennent le parti de défendre la vision de la paix. Et c'est tout à fait important. Donc, je pense que cet article aborde cette question de la guerre sous un angle particulier. Je vais vous en lire le début pour ces dernières minutes de notre chronique. Élan de vie et marche vers la mort s'affrontent dans ce qu'on peut appeler les films de guerre. Beaucoup exaltent le modèle héroïque plus spectaculaire. D'autres, tournés vers la vie, choisissent la dénonciation sous diverses formes. C'est cette deuxième tendance qui va nous intéresser ici, représentée surtout par quelques œuvres consacrées aux deux conflits mondiaux du XXe siècle parmi les centaines produites. Voilà comment Alain Vauchel introduit son article. Et il commence ainsi « Les fauteurs de guerre ». Le conflit guerrier ne naît pas de ceux qui seront mobilisés, mais d'une minorité porteuse d'intérêts politiques et surtout économiques. Une œuvre comme « Les damnés » de Luchino Visconti pénètre dans l'intimité de la famille von Essenbeck, maître de forge en 1933, qui accroît sa fortune et son assise en transformant ses usines en fabrique d'armes pour l'État nazi. C'est une plongée en enfer conduite par l'esthétique baroque et crépusculaire du maître italien que nous entraînent ces incarnations fictives des industriels réels comme Krupp. Mettre la science et l'imagination créatrice au service de la destruction, c'est ce que fait en quelque sorte le savant Robert Oppenheimer dans le film éponyme de Christophe Nolan sorti en 2023. Le réalisateur virtuose centre sa narration complexe, puisque mêlant le présent du procès intenté au savant au passé de son itinéraire, sur Oppenheimer, mais surtout sur l'hubris qui l'habite, comme elle habite les responsables politiques et militaires du projet Manhattan. Psychologie et politique se rejoignent. C'est le dernier en date des films sur le péril atomique. Auparavant, le docteur Follamour de Stanley Kubrick en 1963 peint la caricature du nazi devenu sommité scientifique américaine, Confer von Braun, dans une fable délirante servie par la triple interprétation du grand Peter Sellers, dont l'efficacité politique et idéologique est proportionnelle aux rires engendrés. « C'est le meilleur manifeste antinucléaire que je connaisse », dit donc Alain Vauchel. Des œuvres comme « Le dernier rivage » de Stanley Kramer en 1959 ou « Pluie noire » Imamura 1989 se situaient, eux, après la catastrophe. Si, jusqu'à présent, depuis Hiroshima et Nagasaki, l'humanité a échappé au désastre atomique, il n'y a pourtant pas un jour où les humains ne sont pas victimes de guerre. C'est ce qu'ont bien compris, ce qu'a bien compris Yuri Orlov, le protagoniste de Lord of War, donc en 2005, trafiquant d'armes américains sans scrupules. Sa carrière atteint son sommet quand, profitant de l'effondrement de l'URSS, il vend des stocks d'armes russes à un dictateur africain psychopathe. Lors d'un dernier trafic, son frère et assistant est tué et il est arrêté. Mais l'intervention du gouvernement lui rend la liberté et lui permet de reprendre ses affaires. Assez inégal dans sa réalisation et la peinture des personnages, le film a le mérite de dénoncer la collusion systémique entre pouvoir politique et gangstérisme dans la lucrative vente d'armes. Les armes, de la plus banale à la plus terrible, sont donc à disposition. Encore faut-il des hommes pour les servir, des hommes qui obéissent sans discuter. Full Metal Jacket, Stanley Kubrick 1987, montre dans sa première partie un camp d'instruction de marine où règne un conditionnement abrutissant assuré par un sergent aboyeur et sadique qu'un soldat martyrisé exécutera. Voilà, je reste là pour les premiers paragraphes de cet article donc d'Alain Vauchel dans le dernier numéro de l'Idée Libre. Donc, l'humanité n'a qu'un chemin, la paix. Nous reviendrons plusieurs fois sur ce numéro que je trouve tout à fait passionnant et entre autres sur cet article d'Alain Vauchel donc sur le cinéma et la guerre avec l'angle d'attaque qu'il a indiqué, donc que j'ai cité en tout début. Voilà, je vous propose maintenant de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. sans oublier mercredi le rendez-vous devant le palais de justice de Périgueux à 18h pour un rassemblement pour dénoncer donc ce qui se passe aujourd'hui auprès donc à Gaza et dans les territoires occupés et avec cette politique criminelle du gouvernement de Netanyahou. À la semaine prochaine.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi
11h30.